Bonjour à tous. Vous écoutez France Culture, il est tout juste midi. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table. Mais tout de suite, les titres du journal de 12h30 avec vous, Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Le MEDEF répond ce matin à la mise en garde de Manuel Valls sur le bilan du pacte de responsabilité. Le Premier ministre jugeait hier que les engagements du patronat en matière d'emploi n'étaient pas satisfaisants pour le président du MEDEF, Pierre Gattaz. Les entreprises, au contraire, ont joué le jeu, ont atteint un résultat honorable malgré, dit-il, de nombreux obstacles. Nous l'entendrons tout à l'heure, ainsi que l'analyse d'Anne-Laure Chouin. Le Parlement doit prolonger aujourd'hui une nouvelle fois l'état d'urgence, instauré après les attentats de Paris. On attend un vote probablement massif à l'Assemblée, avec toutefois davantage de voix qui critiquent, plus critiques donc à l'automne, sur un choix que l'exécutif justifie toujours par le maintien d'un péril imminent. Quatre des principaux pays producteurs de pétrole annoncent ce matin avoir conclu un accord pour geler leur production de brut à son niveau de janvier. Ce sont les ministres du Qatar, d'Arabie Saoudite, de Russie et du Venezuela qui se sont retrouvés tout à l'heure à Jeddah pour une réunion impromptue à huis clos dont nous parlera tout à l'heure Hakim Kasmi. Et puis David Cameron poursuit lui sa tournée européenne pour tenter d'arracher un accord et éviter un Brexit, un éclatement prévisible de l'Europe si en cas de Brexit, affirme le président de l'Union Donald Tusk. Aujourd'hui donc monsieur Cameron sera reçu à Bruxelles par le président de la Commission, dira aussi un mot de la poursuite de l'internationalisation de la guerre en Syrie avec la Turquie qui se dit prête ce matin à participer à une intervention militaire terrestre. C'est un haut responsable turc qui l'assure. Toutefois, il n'y aura pas d'opération unilatérale d'Ankara. Voilà donc pour les titres et c'est à vous maintenant pour la Grande Table, Caroline Brouet.
Merci Antoine, merci. On se retrouvera après votre journal à partir de 12h55 ensemble pour recevoir une jeune femme qui avait fait le buzz sur Internet, comme on dit, avec une lettre intitulée « Moi, je n'irai pas qu'en terrasse ». C'était tout juste après les attentats de novembre 2015. Sa lettre a fait grand bruit. Elle est désormais dans un livre intitulé « Lettres au pluriel à ma génération ». Nous accueillerons Sarah Roubateau en dernière partie. Quant à cette première partie, eh bien, rencontre avec un grand monsieur, l'une des figures majeures de la littérature israélienne, un homme qui, à côté de son œuvre littéraire prolifique, s'est toujours engagé politiquement à travers des tribunes et des essais en faveur du processus de la paix dans son pays. Il est en France pour la parution de son dernier roman, La Figurante, l'histoire des déchirements d'une femme israélienne partagée entre vie professionnelle et vie privée, entre Arnhem où elle vit aux Pays-Bas et Jérusalem où vivent sa mère, son frère et son ancien mari. J'ai le grand plaisir d'accueillir Avraham Yehoshua. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à la Grande Table. Yehoshua, l'héroïne de ce nouveau roman, Noga, c'est une femme qui a 42 ans, c'est une harpiste professionnelle. Elle vit donc aux Pays-Bas, mais elle doit revenir dans son pays, Israël, à l'instigation de son frère, Oni, pour aider leur mère à décider si cette mère souhaite passer ses vieux jours à Jérusalem ou à Tel Aviv. Cette vieille mère a perdu son mari 9 mois avant. Elle vit désormais seule. Mais c'est bien de cette femme de 42 ans qu'il s'agit, Noga. C'est une femme qui est au tournant de sa vie.
C'est une femme qui a mené sa vie comme ça, d'une façon normale. Mais il y a quelque chose avec elle qu'elle ne veut pas avoir des enfants. Elle veut avoir un mari, elle était mariée par amour, son mari l'aimait énormément, c'est-à-dire il n'y avait pas aucun problème dans la relation conjugale, mais elle ne veut pas avoir des enfants. Et ça c'est un phénomène que je vois maintenant en Europe, et parmi pas mal de gens qui décident de ne pas avoir des enfants. Et moi je voudrais pencher sur ce problème et de savoir quelle est la raison.
C'est un problème.
C'est un problème, à mon avis, c'est un problème, ça arrête le cycle de la vie, de la continuation de civilisation. Ça veut dire quand on parle de l'Europe en disant que la démographie en Europe se baisse, c'est pour cela, par exemple, que Merkel a accueilli 1 million de Syriens, pas seulement par des raisons d'humanité ou quelque chose comme ça, mais par des raisons que la population en Allemagne baisse et il faut avoir des autres gens qui vont un petit peu revitaliser l'Allemagne. Alors, ce n'est pas un problème en Israël, je peux dire, mais quand même, je connais autour de moi quand même des couples, soit l'homme, soit femme, qui dit qu'on ne veut pas avoir des enfants. Et je peux, s'il y en a ici, que quand c'est un homme qui ne veut pas avoir des enfants, bon, alors, on peut dire ceci ou ailleurs, mais quand une femme dit que je ne veux pas avoir des enfants, l'accusation ou la responsabilité est un petit peu plus grave parce qu'elle peut avoir des enfants par elle-même. Ça veut dire elle ne doit pas avoir l'homme qui va le faire aujourd'hui avec tous les systèmes, etc. Alors je voudrais analyser
sa psychologie pour essayer de comprendre cette question.
Psychologie, exactement. Et puis, c'est une fille que j'aimais beaucoup et c'est la première fois avec tous mes romans que j'ai mis une femme qui va diriger tous les romans, qui sera le protagoniste principal. Évidemment, nous souvenons tous que dans le 19e siècle, les trois grands romans de 19e siècle, c'est Madame Bovary, Anna Karenina et Ephibriste. C'est ça, des femmes qui étaient les grandes figures le chef-d'œuvre de la littérature mondiale dans le 19e siècle.
Alors qu'est-ce que ça fait, Abraham Yehoshua, de se mettre dans la tête d'une femme de 42 ans?
Oui, bon, alors ça c'est difficile, il faut le faire, mais il faut le faire d'une façon et d'être gentil, d'être souple, de ne pas pousser comme quand j'ai un protagoniste homme, alors je peux le manœuvrer plus facilement. Ici, je devrais être plus délicat, plus attentive. Quand même, c'est une femme. J'ai eu des
personnages... Vous savez, les femmes ne sont pas toujours délicates, hein?
Comment?
Les femmes ne sont pas toujours délicates.
Oui, mais comme un homme, je dois être délicate avec eux.
C'est ça.
Mais c'est une fille. C'est une fille qui a ses idées. Et j'ai dit à moi-même, je ne vais pas faire à moi, comme une écrivaine, de la vie facile. Ça veut dire en disant qu'elle ne veut pas avoir des enfants parce qu'elle veut garder son carrière musicale. C'est à cause de son carrière qu'elle ne veut pas avoir des enfants parce que ça va abîmer son carrière. Non, pas du tout. Elle-même, elle dit... Il y a une fois, quand elle discute avec son ex-mari, elle dit, c'est seulement parce que vous jouez l'harpe, alors c'est difficile, etc. Alors on voulait pas avoir des enfants. Elle dit, non, pas du tout. Johann Sebastian Bach a eu 20 enfants et il a écrit chaque jour un nouveau cantata. Alors, ce n'est pas la question ici. Et la raison, il y a des femmes qui ont une carrière magnifique, magnifique, première ministre, qu'est-ce que vous voulez, et qui ont des enfants et ont de la famille. Ce n'est pas aussi à cause d'une sorte de pessimisme vers l'avenir d'Israël, en disant c'est un pays qui va mourir ou un pays que ça ne vaut pas avoir des enfants dans ce pays.
Surtout qu'elle n'y vit plus.
Oui.
Elle est partie, elle vit aux Pays-Bas.
Oui, elle vit aux Pays-Bas, pas parce qu'elle a quitté Israël à cause des raisons politiques, mais parce qu'elle n'a pas trouvé une position d'harpiste dans l'orchestre israélien. Il n'y a pas beaucoup d'orchestres israéliens, et comme vous le savez très bien, vous connaissez très bien la musique, l'harpiste, c'est... il y a seulement une seule harpiste dans l'orchestre, et puis il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas aussi beaucoup d'œuvres dans lesquelles on joue l'harpe. L'harpe a commencé avec la période romantique, dans les classiques, chez Haydn, chez Mozart, chez Beethoven par exemple, il n'y a pas d'harpe. Alors, elle devait trouver une place seulement ailleurs.
Il y a un certain nombre d'œuvres musicales à l'harpe, Abraham Yehoshua, dans votre ouvrage, dans La Figurante. Par exemple, la fantaisie pour violon et harpe de Saint-Saëns.
Oui.
«
Vous n'avez pas choisi la facilité, donc. Une femme de 42 ans, qui plus est harpiste. Est-ce que vous vous êtes documenté sur le métier de harpiste pour écrire cette...
Oui, je suis documenté. Ça paraît que c'est un instrument très difficile. C'est un instrument très difficile. Ce n'est pas facile de jouer sur l'harpe à cause des pédales, à cause des cordes. Ce n'est pas facile. Mais en tous les cas, et en plus, parce qu'au commencement, il devait aller à plusieurs présentations, ça veut dire pour jouer l'harpe, alors son mari devait prendre l'harpe qui pèse à peu près 52 kilos et c'est difficile avec la voiture, etc. Mais son mari est très, très, très dévoué à elle.
Oui, il est très, très amoureux, son mari.
Oui, très, très amoureux. Et puis, il a cassé le mariage à cause du fait qu'elle était enceinte et elle a fait un avortement en secret. Alors ça l'a brisé énormément, ça l'a déprimé énormément, il a coupé le mariage. Mais et finalement, alors quand j'ai commencé le roman, je ne savais pas quelle est la raison. Et j'ai dit, moi je vais aller paix à paix en évitant les solutions faciles et je vais aller pour trouver la vraie raison pourquoi elle ne veut pas avoir des enfants.
Mais la vraie raison pourquoi elle ne veut pas avoir des enfants, Avraham Yehoshua, il faut lire le livre pour le savoir. On va sûrement pas le révéler ici.
Oui, je vais pas le révéler, mais il faut le voir parce que...
C'est tout un cheminement.
Oui, c'est tout un cheminement. Et puis, dans le premier chapitre, c'est-à-dire dans les trois premières pages, il y a déjà la formule. Oui. Il y a déjà la formule. Et toujours je suis étonné quand j'écris un roman et je travaille énormément sur les 10, 15 premières pages pendant des 4 mois, 5 mois pour 15 pages. Je travaille et je suis déjà un écrivain professionnel parce que dans les premières 10, 15 pages, on doit mettre le DNA de toute l'œuvre. De toute l'œuvre.
Et puis, tout est contenu dans les 10-15 premières pages.
10-15 pages. C'est-à-dire, on doit surtout former exactement, pas seulement les rites, pas seulement le niveau de langage et tout cela, mais aussi qui est le protagoniste principal. C'est-à-dire, on doit trouver son intérieur.
Je voudrais, Avraham Yehoshua, vous faire écouter, puisque vous parlez de votre protagoniste principal et que c'est une harpiste professionnelle, je voudrais vous faire écouter une vraie harpiste professionnelle qui a été contactée hier à Vienne, en Autriche, par Clémence Marie de La Grande Table. C'est Émilie Gastaud. Je ne sais pas si vous vous êtes inspirée d'Émilie Gastaud pour votre personnage de Noga. Émilie Gastaud, c'est une jeune femme de 27 ans. Elle est première harpe solo de l'Orchestre National de France, sous la direction de Daniel Egatti quand même. Elle a été nominée en 2013 comme révélation soliste instrumentale de l'année et Clémence lui a demandé quel était son rapport à la harpe et quel était pour elle le concerto pour flûte et harpe de Mozart qui est précisément le morceau que doit jouer votre Noga.
Oui, oui.
Moi, ce que j'aime avant tout et ce qui a fait mon coup de foudre quand j'ai été petite et que j'ai découvert la harpe, c'est vraiment le son très cristallin qui ressort de l'instrument. Toute ma vie étudiante a été beaucoup basée sur la recherche du son pour essayer d'avoir beaucoup de puissance, en fait, d'avoir un son qui projette, parce qu'on a toujours le stéréotype que la harpe a un son assez petit, très cristallin, très fin. Et finalement, l'harpe peut avoir un son vraiment très puissant avec des magnifiques graves et en même temps, l'aigu peut toujours ressortir fin et très précis à la fois. Et sans être sec à la fois, il faut toujours que le son de l'harpe soit rond et que ce soit vraiment qu'on soit enrobé par la chaleur du son de l'instrument. L'harpe, c'est uniquement la façon de faire passer les émotions, de faire passer des choses, des sentiments, des histoires aussi. Et on peut être extrêmement romantique. Et en même temps, on peut jouer des choses très mélancoliques parce que forcément l'harpe s'y prête. On peut jouer des choses qui font penser à la mer, à la pluie, en faisant des glissandos à l'harpe. On peut faire des choses très joyeuses et très pétillantes, très sombres avec la puissance des graves. Je pense que c'est un instrument assez complet. C'est un instrument avec lequel donc on a un contact permanent quand on joue. ça peut être charnel aussi, c'est un rapport presque humain en fait. Le concerto pour flûte de Mozart, c'est un vrai bijou hein, pour le répertoire de l'harpe, tout simplement parce que c'est la seule œuvre qu'a écrite Mozart pour harpe. Pour moi, pour le coup, c'est un vrai dialogue qui s'en sort entre la flûte et l'harpe et qui est vraiment accompagné par l'orchestre derrière. Pour petite anecdote, le concerto pour flûte de Mozart a été en fait une commande d'un duc. Ce duc a fait la commande de ce concerto pour sa fille, parce qu'il était flûtiste et il voulait jouer avec sa fille harpiste. D'où le dialogue qui s'instaure dans ce concerto. On peut tout à fait imaginer le dialogue d'un père et d'une fille et à quel point c'est très sensible aussi et très, très touchant.
Voilà Émilie Gastaud qui sera ce soir à Linz en Allemagne pour jouer du Berlioz et du Shostakovich. Avraham Yehoshua, ce qu'elle dit finalement résonne vraiment avec votre personnage et ce récit puisque c'est le rapport humain qui se joue, c'est le dialogue aussi qu'elle peut renouer avec cette famille qu'elle a laissée, son frère, sa mère, son père disparu, qu'elle a laissé dans un pays qu'elle a quitté.
Oui, comme elle a quitté seulement à cause de trouver un autre travail, pas quelque chose, elle n'a pas quitté par idéologie ou par opposition à Israël.
Mais elle revient quand même, Avraham Yehoshua, dans une ville, Jérusalem, où elle a grandi, elle s'installe dans l'appartement de sa mère, et elle revient dans cette ville de Jérusalem, où, en marchant dans certains quartiers, elle constate une véritable évolution. Elle constate une montée d'une forme de religion ou de religiosité un peu dure, un peu radicale, à un moment, vous écrivez les voisins de cette mère, dans son appartement, dans son immeuble, sont pour le coup des religieux plutôt modérés. Ils ont des enfants qui regardent un peu trop la télé, mais ils sont en tous les cas des religieux assez modérés. Mais vous écrivez que leur espèce est en voie d'extinction, c'est un homme qui le dit, et qu'à leur place débarquent des extrémistes qui ne se contentent pas d'observer scrupuleusement les commandements les plus rigoureux, mais qui en plus croient aux démons et aux esprits. Là, c'est une forme de réalité de l'évolution de Jérusalem ?
Oui, évidemment. Le quartier dans lequel je décris ici, c'est un quartier qui est devenu terrible dernièrement. Ça veut dire c'est noir, pas parce qu'il y a la race noire, mais parce que tous les habits sont noirs et puis ils sont devenus très orthodoxes. Mais j'ai pris maintenant ce quartier un petit peu en léger et surtout par la famille qui et les voisines qui habitent au-dessus de l'appartement de sa mère. Elle est venue ici pour 3 mois seulement. Elle est venue en Israël pour garder l'appartement pendant la période que la mère, après la mort de son mari, va à Tel Aviv, est à côté de son fils là-bas qui vit à Tel Aviv et lui insiste qu'elle va essayer voir la maison de retraite qui est à côté de chez lui, comme ça il peut et les garder mieux quand elle est à côté. Alors elle vient là-bas à Jérusalem. Pendant 3 mois, elle est retournée à l'appartement de son enfance. Et ça commence à être une sorte de processus. Et le processus principal de ce roman, c'est le processus de figurante. Ça veut dire, et son frère dit à elle, qu'est-ce que tu vas faire pendant, tu as pris 3 mois de congé de l'orchestre, tu ne gagnes rien, évidemment, nous allons couvrir toutes vos dépenses, mais quand même, vous devez être là, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être figurante dans des films, dans des théâtres, dans l'opéra, dans toute cette grande activité, parce que lui, il est chef d'une compagnie qui s'occupe des communications et des choses comme ça. Alors, je peux dire que le corps de ce roman, c'est comment des actes qui sont tout à fait différents à l'acte qui à votre décision peut influencer indirectement et inconsciemment vos attitudes. Ça veut dire, vous avez une attitude, par exemple, de ne pas parler avec quelqu'un qui a été fâché totalement. Maintenant, des actes et des événements qui n'ont rien à voir avec vos décisions qui déjà étaient prises et complétées, toutes ces choses peuvent faire des serrures ou des verrures dans vos décisions et ça change vos décisions. Et comme ça, elle joue comme une figurante ici, ailleurs, dans des endroits ou dans des scènes de cinéma qui n'a rien à voir avec sa décision de ne pas avoir des enfants. Et peu à peu, ça change son avis.
Avraham Yoshua, on entend là le dialogue du vent et de la mer, dans la mer de Debussy, qui est aussi présente dans votre roman, La Figurante. Très. Déjà, dans votre roman précédent, Rétrospective, qui avait reçu le prix Médicis étranger en 2012, votre personnage était un cinéaste et on croisait une actrice, un photographe, il était question de peinture, là, beaucoup de musique, puisqu'encore une fois, votre personnage principal est harpiste et qu'elle est figurante dans des documentaires ou à l'opéra. Cette dominante artistique, on entend d'ailleurs votre volonté, votre enthousiasme, votre passion pour parler de littérature. C'est une façon aussi de ne pas parler de politique, c'est vous soulager de la politique parce que vous parlez toujours de politique et qu'à un moment vous avez envie de parler d'autre chose.
Non, ça colle toujours ensemble, mais de temps en temps je suis un petit peu fatigué de la politique. Moi je suis très présent dans la politique, et pas dans la politique mais dans l'idéologie. Ça veut dire il y a quand même une différence entre la politique, ça veut dire qu'est-ce que le premier ministre a dit ou fait fi, etc. Le jeu politique dans le Parlement, ça m'intéresse pas. Mais il y a la question d'idéologie. Qu'est-ce que ça veut dire israélienne? Qu'est-ce que ça veut dire israélienne par rapport aux juifs? Quel est le vrai sionisme? Quelle sera l'attitude entre nous et les Arabes? Tout cela m'occupe énormément et j'écris sur ça et j'écris aussi sur la base de cette identité juive si difficile et si compliquée qu'on ne peut pas sortir de là-dedans. Mon littérature, elle est attachée à ça. Et puis il y avait pas mal de livres comme Monsieur Mani, comme la Mariée Libérée, etc. Mais la culture, évidemment, à mon avis, est toujours une façon d'exprimer aussi quelques aspects de cette question politique aussi. Alors, je n'attache pas la politique de la culture. Mais maintenant, et ça je peux dire contre la gauche israélienne, et je dis ceci, la gauche israélienne s'occupe trop aux problèmes de culture et moins des problèmes idéologiques. La bataille aujourd'hui en Israël, ce n'est pas seulement la bataille sur la question de paix et de la concession de paix, mais sur la question de la définition de l'âme d'Israël et de l'identité d'Israël. Le passage d'Israël aux Juifs, c'est un passage très dangereux qui fait faire dernièrement, et on doit lutter contre ça. Alors, maintenant, à ce qui concerne la figurante pour moi, évidemment, la question de la mère, je vais donner ici une sorte de quelque chose sur la solution. Quelle était la solution pour moi? Parce que moi, je suis allé avec elle, avec la figurante, sans savoir exactement quelle est la raison, avec Noga. Et puis, après, j'ai compris qu'elle a le mariage de ses parents, qui était une sorte de symbiotique, qui vivait dans cette petite lit ensemble avec un amour énorme, n'a pas donné la place à elle pour se grandir comme un être humain à côté ou dedans le mariage de ses parents. Alors, c'est pour cela que seulement après la mort de son père, elle peut créer des relations nouvelles avec sa mère Et la question de la mère de Debussy, ça veut dire la mère de Debussy, et la mère aussi, c'est en français, ça colle très bien. Alors, elle commence à créer des relations séparément de la relation conjugale qui était entre son père et sa mère. Et puis après, elle peut créer dans sa fantaisie, dans des métaphores, les relations avec son père. Alors, les problèmes étaient les problèmes, je peux dire, primaire de cette famille qui était très bien. C'était une famille parfaite, une relation père-mère, mais l'enfant n'a pas trouvé sa place dans cette relation.
Vous nous disiez, Abraham Yehoshua, non seulement que la littérature vous permettait parfois d'échapper à la politique, mais vous permettait d'exprimer des questions politiques, et que toujours c'est important pour vous, quand vous êtes dans votre pays en Israël, de réfléchir à ce qu'est l'identité israélienne. Moi, il me semble qu'une des particularités de la littérature israélienne, c'est précisément de chercher dans cette identité les fondements premiers de cette identité dans la famille. Il est très, très, très souvent question, peut-être même plus qu'ailleurs, que dans n'importe quel autre pays, de la famille comme fondement. Oui. Et c'est pas pour rien que vous avez commencé en vous interrogeant sur le fait que des gens de 30, 40 ans aujourd'hui ne veuillent plus faire d'enfants. Ça vous préoccupe vraiment, peut-être même plus qu'ailleurs. Ça, ça peut nous paraître étonnant à nous, européens,
parce que ça, pour se couper les règles. Alors, vous savez, à la fin, les règles retournent à elles. Alors, les règles, ça veut dire les cycles de la vie. Et puis, nous sommes un peuple qui a perdu 1 million d'enfants dans l'Holocauste. Nous avons derrière nous des pertes énormes. Alors, la question, nous sommes un peuple très restreint. Nous sommes en Israël 6 millions. Dans tout le monde, c'est 12 millions. Il y a toujours des juifs qui s'assimilent et qui quittent les peuples. Alors, la question de la continuation. Et surtout vers les Arabes, qui sont nombreux et qui sont à côté de chez nous et qui sont dedans nous. Alors la question de la continuation. Et quand quelqu'un dit « je ne vais pas avoir des enfants », c'est quelque chose très grave à mon avis. Même que, évidemment, comme féministe, je dois garder la liberté de chaque femme de décider ou chaque homme de décider s'il va avoir des enfants ou non. Mais je dois comprendre pourquoi. Je dois comprendre pourquoi.
Vous parlez de continuation, il se trouve que le roman se poursuit, se continue, se termine même au Japon, Abraham Yehoshua. Eh bien, figurez-vous qu'une jeune harpiste japonaise va bientôt sortir un album sur lequel on peut écouter, avec l'orchestre d'Auvergne, les danses profanes et sacrées de Debussy, qui sont dans votre livre. Je vais vous faire cadeau de ce disque, et puis cadeau de ce qu'on va écouter pour terminer, un extrait de la danse profane, interprété donc par la harpiste japonaise Naoko Yoshino. Un disque aparté qui sera dans les bacs le 4 mars. Un grand merci à vous, Abraham Yehoshua.
Merci énormément pour ce disque et pour cette conversation.
Merci à vous, La Figurante, votre roman traduit de l'hébreu par Jean-Luc Alouche, comme tous vos romans, ou quasi, je pense, mais en tout cas, ça fait un moment que Jean-Luc Alouche traduit vos romans. Un livre qui est édité aux éditions Grasset. Merci beaucoup d'être venu une fois de plus au micro de La Grande Table. Dans un instant, c'est le journal et la suite de La Grande Table.